C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud.
Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver, 34e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, mercredi et jeudi, avait lieu un nouveau mouvement social à la SNCF, en pleine grève perlée, duplex spécial avec Franck Payanaf depuis la gare de Pau. À l'international, après un peu moins de 60 ans de castrisme, Cuba est dirigé depuis ce jeudi par Miguel Díaz-Canel. Mais quelle réaction de la presse ? Revue avec Michael Assoumou. Hashtag partage ta bagnole, titre du nouveau livre de Jean-Claude Puerto Salaver, fondateur de UCAR. Quel message veut-il faire passer ? On en parlera avec lui. Entretien à suivre également avec Éric Debray, expert en sécurité numérique, pour aborder le brûlant sujet de nos données personnelles sur le web. Nous parlerons également avec Alexander Seale du sommet du Commonwealth qui avait lieu à Londres cette semaine. Et puis enfin, États-Unis-Iran, où en est l'accord sur le nucléaire iranien ? Entretien exclusif avec Jonathan Piron. Et élément de réponse, surtout, les États-Unis vont-ils, oui ou non, sortir de ce brûlant accord sur le nucléaire iranien ? Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 34e numéro de C'est l'info. On est ensemble pour une heure. Le duplex avec Franck Payanaf en duplex de Pau. Bonjour Franck.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Pau, pourquoi ? Parce que la grève SNCF continue et avait lieu ce jeudi 19 avril, hein, à l'heure où nous enregistrons ce duplex, il est 13h07. Et ce matin donc avait lieu une manifestation des grévistes.
Oui, alors les chiffres, ils étaient 400 au début, ensuite il y a eu du monde qui arrive entre temps. La police estime environ 800, la CGT à 1000 manifestants qui ont d'abord bloqué dans un premier temps le rond-point qui est devant la gare avant de circuler dans le centre-ville. Et alors là, il y avait toutes sortes de syndicalistes, il y avait des syndicalistes bien sûr cheminots, mais également des retraités, des étudiants, également le personnel de l'énergie et du personnel hospitalier étaient présents juste avant une assemblée générale avait lieu et on a appris à ce moment-là que symboliquement la CGT avait fait couper l'électricité à la gare SNCF qui a dû fonctionner sur des générateurs pendant plusieurs heures, néanmoins pas forcément d'incidence sur le réseau parce qu'aucun train ne circulait en tout cas en gare de Pau, on va en parler bien sûr dans quelques instants, mais en tout cas voilà, c'est une mobilisation quand même assez forte, les gens sont arrivés un petit peu plus tard que prévu, la mobilisation devait commencer à 10h30, la manifestation n'est partie qu'à 11h.
Oui, au niveau national en tout cas ce jeudi, 19% des cheminots étaient en grève. Et au niveau local, donc à Pau, comment cela s'est tourné au niveau des chiffres ?
Alors la CGT cheminots de Pau et du Béarn nous donnait comme chiffre ce jeudi 85% de cheminots en grève. C'est là que c'est important d'indiquer parce que le chiffre que vous donnez, Martin, au niveau national regroupe tous les métiers de la SNCF. Là, on ne parle que des cheminots. Les cheminots, ils sont encore assez nombreux à Pau, même si la semaine dernière, ils étaient 95%. Maintenant, il n'y en a plus que 85%. Mais la mobilisation reste quand même assez forte du côté de la CGT. Je vous propose d'écouter l'entretien qu'on a réalisé avec Frédéric Bentous, c'est le secrétaire général de la CGT cheminots ici à Pau et dans le Béarn. Il nous explique les motifs de la grève.
Donc on a un gouvernement qui a sorti une loi qui a été votée à l'Assemblée donc concernant la privatisation pure et simple de la SNCF, c'est-à-dire par une casse du statut, une mise en concurrence de notre entreprise ferroviaire, c'est-à-dire sur la gestion du réseau, sur tous les corps de métier. Et donc cela, nous on est contre de cette privatisation car c'est un service public et on ne veut pas de privatisation. Donc on se bat pour un service public de meilleure qualité et pour les usagers du quotidien sur la région.
Alors ça fait déjà plusieurs périodes de grève, est-ce qu'il y a toujours cette fraîcheur au niveau de la mobilisation, en tout cas chez vous, chez les cheminots ?
Oui, oui, nous, honnêtement, niveau cheminots ici sur la région paloise comme ailleurs, on a des assemblées générales en nombre qui sont régulières. Sur certains mouvements, on avait déjà constaté des baisses sur les assemblées générales d'effectifs. Mais là, au contraire, ça hausse. Et les gens ont très bien compris que c'était leur avenir qui était en jeu et aussi l'avenir du service public ferroviaire.
Quel est l'accueil au niveau des usagers ? Là, aujourd'hui, vous êtes en AG devant la gare. Est-ce qu'il y a des passagers qui viennent vous parler pour vous soutenir ou au contraire râler en quelque sorte contre la grève ?
Mais justement, les usagers avec nous, la plupart nous soutiennent, les vrais usagers du train qui le prennent quotidiennement. On a même fait surtout des actions à passer dans les trains, hors nos jours de grève. Nous passons dans les trains, on distribue des tracts, on leur explique le pourquoi, ce que ça va devenir si cette loi passe. Et honnêtement, on peut constater que l'opinion publique est en train de basculer pour nous. Donc c'est un travail qui paye et les usagers sont très compréhensifs.
Emmanuel Macron, ça fait une semaine maintenant qu'il est beaucoup présent dans les médias, qu'il parle quand même assez de votre mobilisation. Comment vous accueillez les paroles du président de la République ?
Ouais, mais nous on l'entend, il apporte ses paroles, mais nous aussi on a nos paroles. Donc s'il ne veut pas écouter nos paroles, quand on réorganise un métier, il faut quand même aller voir au cœur du métier ce qui se passe avant de réorganiser. Et s'il faut d'abord aller voir la base pour savoir dans le cœur du métier ce qui se passe, et c'est comme ça que tous nos élus, que ce soit nos élus locaux, nos élus de toute la France, il faut qu'ils comprennent qu'il faut aller voir à la base avant pour mettre en place une restructuration, avant d'aller lancer des lois. Et c'est comme ça qu'on va avancer. On est tous conscients que le ferroviaire en France ne va pas. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut faire, mais d'autres qu'il faut surtout éviter. Pardon.
La grève va continuer ?
Oui, elle va continuer. Nous, honnêtement, on est déterminés et on ne lâchera rien jusqu'au bout, comme j'ai pu le dire dans un discours là, de l'Assemblée. Nous, on ne va rien lâcher, on entreprend des démarches, on va aller rencontrer tous les politiques locaux et on ne va rien lâcher jusqu'au bout pour justement faire tomber ce gouvernement. Et nous, c'est notre avenir. On ne veut pas perdre notre métier. On aime notre métier et on aime nos usagers. Ce ne sont pas des clients, comme dit notre direction, c'est des usagers. Et on aime notre service public et tous les services publics en France.
Oui, et enfin donc Franck, quid de la circulation ce jeudi sur Pau ?
Eh bien écoutez, je suis juste devant la gare de Pau et je peux vous dire qu'elle ne va pas servir à grand chose aujourd'hui, à part se mettre au frais en attendant son bus, parce qu'aucun train ne passe par la gare de Pau aujourd'hui. Et ce sont seulement quelques bus de substitution. On en a compté 8 entre 8h30 et 18h ce jeudi pour desservir certaines villes de la région comme Bayonne, Mont-de-Marsan ou encore Dax. Que 2 bus pour aller jusqu'à Bordeaux, un à 5h du matin et un autre à 18h. Mais aucun bus pour aller, que ce soit à Toulouse qui est desservi normalement par un intercité, ou pour aller à Paris qui est desservi par un TGV. Donc aucun train n'a circulé à Pau aujourd'hui. La circulation est redevenu normal vendredi.
Franck Payana avant Duplex de Pau. Merci beaucoup Franck et rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous rentrez en voiture vous. Hein.
Oui, heureusement on a la voiture. En plus avec le soleil, on va en profiter. Merci beaucoup Martin, à bientôt.
Merci beaucoup et bon week-end Franck.
Le Duplex.
Allez, à suivre la revue de presse hebdomadaire de Michael Assoumou.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse hebdomadaire. Je suis Michael Assoumou et au sommaire de ce numéro, la succession historique du régime castriste.
Et Michael, vous nous parlez donc de Cuba.
Ce jeudi marquera en effet l'histoire de Cuba, puisque pour la première fois depuis près de 6 décennies, l'île ne sera plus dirigée par un Castro, Raoul cédant officiellement la présidence à son dauphin désigné, Miguel Díaz-Canel. La nomination du numéro 2 du régime, âgé de 57 ans, a été soumise au scrutin de l'Assemblée mercredi. Au moment de l'annonce de sa candidature unique, l'héritier aux cheveux gris et son prédécesseur de 86 ans se sont donné une franche accolade aux airs d'adoubement, confirmant ce que beaucoup anticipaient depuis plusieurs mois.
En tout cas, et c'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde, il y a un réel changement qui s'opère.
En démocratie, cela pourrait s'appeler le changement de la continuité. Mais Cuba n'est pas une démocratie. Dans les régimes dictatoriaux, la dose de continuité l'emporte généralement sur le changement. La journée de jeudi 19 avril à la Havane, où Raúl Castro, 86 ans, frère du défunt Fidel, devait céder la présidence du Conseil d'État à Miguel Díaz-Canel, unique candidat, ne fait malheureusement pas exception à cette règle.
Pour le progrès, on entre cette fois-ci dans une nouvelle ère, celle de la modernité.
Spectaculairement nommé premier vice-président en 2013, après avoir gravi dans l'ombre les échelons du pouvoir cubain, ce pur produit du parti unique, au regard perçant mais au profil plutôt discret, s'est peu à peu imposé aux côtés de Raúl Castro. Ainsi, le régime entend incarner une image de modernité. Mais surtout, Miguel Díaz-Canel a été l'artisan d'un rapprochement longtemps considéré comme impossible avec les États-Unis, en adoptant une diplomatie plus pragmatique. Toujours inflexible sur l'essentiel, il a su donner des gages nécessaires à Washington pour initier fin 2014 un dégel aujourd'hui remis en cause par l'administration de Donald Trump.
Oui, et quant aux Parisiens, eh bien le Parisien il nous explique que des doutes subsistent.
Si l'arrivée au pouvoir de ce provincial et ancien professeur de mathématiques se confirme, bien peu parie sur sa capacité à tenir tête aux caciques du régime issu du parti et de l'armée. La nouvelle composition du Conseil d'État, véritable instance dirigeante du pays, avec ses 31 membres, fournira une indication sur la dose de renouvellement que le régime cubain va consentir à s'appliquer. Rappelons que Díaz-Canel n'a pas connu la révolution cubaine de 1959. Ainsi, pour Michael Shifter, président du groupe de réflexion dialogue interaméricain à Washington, il est assez difficile d'évaluer la capacité de Díaz-Canel de remplir les fonctions de président. Ses débuts constitueront un test pour ses capacités politiques et il peut s'attendre à des résistances, affirme l'expert.
C'est donc une fin de règne pour les Castro.
La fratrie Castro a écrit une histoire unique de coopération au sommet, parvenant à résister pendant près de 60 ans à l'adversité de la superpuissance américaine et à l'effondrement du partenaire soviétique aux conséquences dramatiques pour l'île. Après avoir succédé en 2006 à son frère Fidel, décédé fin 2016, Raúl Castro a engagé une série de réformes autrefois impensables, comme l'ouverture de l'économie au petit entrepreneuriat privé, et a surtout orchestré un rapprochement spectaculaire avec les États-Unis.
Ainsi, il est donc légitime de se demander si Miguel Díaz-Canel se risquera à aller plus loin.
En effet, Martin, pas si sûr, car le contexte actuel géopolitique ne lui est pas beaucoup plus favorable. Le Venezuela, rare allié de Cuba qu'il fournissait en pétrole, s'est à son tour effondré. Et le rapprochement avec les États-Unis, lancé en fanfare par le président Barack Obama il y a 2 ans, n'a pas survécu à l'arrivée de Donald Trump. Entretenir l'immobilisme promet un étouffement économique à petit feu. Lancer de vraies réformes comporte une part de risque politique. La voie apparaît pour ainsi dire étroite pour le successeur des Castro. Quant à moi, j'emprunte la voie de la sortie et d'ici là, vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse de l'actualité internationale.
Merci beaucoup, c'était Michael Assoumou, donc revue de presse consacrée à Cuba et à la fin de 60 ans de castrisme. On va tout de suite retrouver Jean-Luc Puerto Salaverre à présent, fondateur de UCAR et qui signe son nouvel ouvrage, hashtag partage ta bagnole. Mais alors justement, quel message veut-il réellement faire passer derrière le titre accrocheur de ce livre? On va en parler dans quelques instants, juste après la jingle. Jean-Claude Puerto Salaverre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président d'UCAR France, la première compagnie de location de véhicules low cost en France, et vous publiez la semaine dernière Partage ta bagnole aux éditions Exil. Alors vous êtes un homme de voiture, fondateur également de ADA, aujourd'hui donc président fondateur de UCAR, et néanmoins vous exposez dans ce livre un constat, les belles heures de la voiture individuelle sont derrière nous.
Oui, je pense que les belles heures de la voiture sont devant nous, à condition qu'on soit un peu moins égoïste avec la voiture et qu'on accepte de la partager, effectivement.
Oui, mais alors, justement, en quoi, selon vous, notre vie d'automobiliste va radicalement changer dans les 10-15 prochaines années, comme vous l'expliquez dans votre livre?
Je crois qu'aujourd'hui, on a une consommation individuelle de la voiture, même si on ne s'en sert pas beaucoup et même si on s'en sert de moins en moins, puisqu'on fait 700 milliards de kilomètres en France, avec un nombre de plus en plus important de voitures, qui roulent un pourcentage du temps extrêmement réduit. Donc, on a une voiture qu'on va sortir en moyenne, un jour dans la semaine, un week-end de temps en temps. Ben, je dis que le temps où cette voiture est disponible, on aurait tout intérêt à en faire profiter les autres et à en tirer un revenu.
Oui, et l'idée, c'est donc que des particuliers ou des entreprises se regroupent pour partager leur voiture, une certaine manière, une communauté de partage qui s'installerait ainsi autour des véhicules, hein, c'est bien cela.
Alors, je crois que l'intérêt que nous avons, c'est de se mettre à partager nos voitures, c'est ce qu'on va faire dans les années qui viennent, et je crois que ce partage, on a intérêt de l'organiser à l'intérieur de communautés. On peut partager sa voiture sans communauté. On peut imaginer que des Uber nous proposent de partager la voiture à l'intérieur d'une plateforme mondiale. Je prétends, c'est ma conviction, qu'on a intérêt à partager à l'intérieur de communautés de proximité.
Oui, alors comment cela se présentera concrètement, hein? Vous écrivez que vous ne voulez pas d'une Airbnb, de la location automobile. Que souhaitez-vous? Quelque chose de plus concret, sans passer forcément par une plateforme Internet?
Alors, je crois que la plateforme digitale est indispensable, mais soit elle est au service d'un système universel qui se moque bien de nos harmonies sociales, soit les plateformes digitales sont au service d'une communauté de proximité qui, elle, va devoir se préoccuper des harmonies de sa communauté. Je vous donne un exemple. Une communauté, un médecin dans une zone rurale partage sa voiture dans une plateforme mondiale. Première hypothèse. Ce médecin fait beaucoup de kilomètres et il est plus préoccupé par ses clients que par l'atoll de sa voiture, qu'il froisse régulièrement. Un accident, deux accidents, trois accidents. La plateforme mondiale va éjecter le médecin dans un contexte d'administration de proximité. On va se poser la question, notre médecin nous coûte un peu cher en toll, mais c'est notre médecin, on ne veut pas le perdre. Et vous comprenez, je prétends que personne d'autre qu'une communauté de proximité n'est capable de décider qui doit être exclu ou pas de la communauté. Alors, il y a des gens qui sont exclus. Je pense, si j'en crois mon expérience, 2-3% de la population qui, à un moment donné, avec laquelle on ne pourra pas partager, parce qu'ils auront de mauvais comportements. Mais on pourra partager avec tout le reste, avec tout le monde, en disant, eh ben, un tel, voilà, il ne conduit pas très bien, ça va nous coûter 50 centimes de plus par mois de cotisation à l'assurance, mais il est prof de mes enfants, il est instituteur, il est médecin. C'est seulement la communauté qui est capable de prendre ses décisions et de préserver son harmonie. Je pense que la giga plateforme mondiale, elle se fout totalement de nos harmonies. Ce qui l'intéresse, c'est son propre intérêt.
Et alors, du coup,
c'est bien évident.
Et alors du coup, finalement, est-ce que le monde que vous imaginez, donc dans lequel les voitures se retrouvent à être un objet de consommation et un bien commun, est-ce qu'on va pas se retrouver dans un monde au modèle très soviétique, à l'image des kolkhozes, et finalement donc la fin de l'individualisme, parce que la voiture, au début des années 50-60, c'était aussi les prémices de l'individualisme d'après-guerre qui s'est extrêmement développé dans notre société française.
Alors, je comprends que vous disiez ça, mais je pense exactement le contraire. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je crois que la voiture est un instrument de liberté, et c'est pour ça que c'est un objet formidable. Elle nous donne la liberté d'aller devant des autres. Je ne crois pas à une voiture partagée à l'intérieur d'une sorte de kolkhoz. La voiture restera la propriété d'un individu, vous, moi, c'est votre voiture, vous l'avez choisie. Vous acceptez juste de la mettre à disposition quand vous le voulez, si vous le voulez, et contre un revenu de quelqu'un qui appartient à votre communauté. C'est tout, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas la partager, vous ne la partagez pas. Je trouve que c'est dommage. J'espère qu'on vous incitera à le faire. Mais rien ne vous oblige à le faire. Et de toute façon, c'est votre voiture. Vous décidez le temps que vous voulez la partager ou pas.
Quant à la demande est-elle plutôt en provenance des villes ou, dans le cas contraire, du monde rural?
Alors, moi j'observe, ça fait avec mes différentes vies dans la location de voitures, j'observe une évolution de l'automobiliste, de son comportement. Il est moins attaché à la propriété. Et ça, c'est indispensable pour aller vers la société du partage. Parce que si la voiture est la prunelle de vos yeux, ben vous n'allez pas la partager. C'est beaucoup moins le cas. Et je crois assez aux sondages qui disent que 20% des gens sont aujourd'hui prêts à partager leur voiture. c'est ce que nous observons. C'est ce que nous observons, c'est énorme 20%. C'est énorme. Je crois que si on arrivait à procurer à ces gens qui acceptent de partager leur voiture un revenu pour les jours de disponibles, en toute sécurité, j'insiste, hein, c'est pour moi l'enjeu principal de la société du partage dans l'automobile, ben je crois qu'ils vont se mettre, à partager leur voiture. Ça va leur procurer un revenu. Ce revenu va leur payer, leur permettre de s'offrir des voitures de plus en plus récentes, de plus en plus neuves. Il faut avoir en tête qu'il y a 2 millions de voitures qui rentrent dans le parc automobile français chaque année, qui est constitué de 40 millions de voitures, dont 15 millions en plus de 10 ans. Donc le parc est extrêmement vieux et toujours vieillissant. Donc je crois que les revenus du partage finalement très peu d'efforts vont permettre de rajeunir le parc automobile.
Oui, et en 2006 d'ailleurs, hein, vous aviez publié un livre vantant la location de voitures sous le titre « Pour le prix de ce livre, vous pourriez avoir une voiture ». En 2006, l'idée était de défendre donc l'image populaire de la voiture pour casser son image un petit peu luxueuse. En 2018, vous publiez donc ce livre « Partage ta bagnole ». Dans 10 ans, où serez-vous? Où en serons-nous?
C'est comme ça que démarre mon hashtag partage ta bagnole. C'est, on est dans 10 ans, place de la Concorde et on fête la disparition de la dernière vieille bagnole. Oui. C'est une voiture qui sort des chaînes aujourd'hui. Hein, ça veut dire qu'à ce moment-là, on sera débarrassé de toutes les vieilles bagnoles grâce au partage.
Et alors justement, la société de location UCAR que vous avez fondée et que vous dirigez, aura-t-elle une place dans ce schéma?
Oui, elle est au service de ce projet et le réseau UCAR, c'est un réseau qui va s'impliquer dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans le partage. Il va non seulement continuer à partager ses propres voitures, mais il va favoriser le partage des particuliers, de ses clients en général.
Merci beaucoup Jean-Claude Puerto Salaver d'avoir répondu à nos questions et je vous conseille donc votre livre, ce livre hein, Partage ta bagnole, hashtag Partage ta bagnole, publié en début de mois aux éditions Exil.
Merci beaucoup.
À suivre dans la deuxième partie de ce 34e numéro de C'est l'info, nous serons avec Jonathan Piron et il l'affirme, tout indique que les Américains ont la nette envie de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Mais alors pourquoi tant de pessimisme? On en parlera avec lui, on abordera voilà, l'ensemble des relations États-Unis-Iran depuis janvier 2017, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Nous serons également avec Alexander Seale pour Ici Londres, plus qu'avait lieu cette semaine à Londres. Le sommet du Commonwealth. Alors quel intérêt pour ce sommet tout nouveau en la matière? Réponse avec Alexander Seale, mais avant cela, nous recevons Éric Debray, il est expert en sécurité numérique et on va aborder avec lui le sujet brûlant de nos données personnelles sur le web. Et oui, tout cela vous concerne. A tout de suite. Mark Zuckerberg, le cofondateur et PDG de Facebook, s'est présenté la semaine dernière face au Congrès américain pour faire son mea culpa et répondre aux interrogations des sénateurs quant à la manière dont le réseau social a failli protéger la vie privée de ses membres et quant aux mesures envisagées pour y remédier. Nous en parlons cette semaine avec Éric Debray. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en cybersécurité, fondateur de la société Magelli qui conseille les entreprises sur leur stratégie digitale. Alors qu'appelle-t-on tout d'abord, Éric Debray, par données personnelles?
Ouais, c'est une vaste question hein, parce que effectivement le scandale autour de Cambridge Analytica a mis en évidence ce problème de données personnelles dont on parle beaucoup mais qui sont pas aussi simples que ça. On légifère dessus via la fameuse réglementation européenne RGPD qui va être applicable en Europe au partir du mois de mai. Mais pour la grande partie des utilisateurs, c'est une donnée qui est assez, enfin une information qui est assez vague, puisque en fait, on est conscient qu'on a bien des données, les données personnelles, on sent bien que c'est à la fois nos emails, nos photos, notre profil, c'est-à-dire notre nom, notre prénom, nos préférences. Mais on imagine difficilement tout ce qui est autour de ces données, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire que en fait, quand Facebook, mais pas que Facebook, hein, tous les grands du web enregistrent des données, ils enregistrent également beaucoup d'informations autour de ces données qui sont dites personnelles, qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire que on sait aussi bien notre adresse IP que le lieu où a été prise une photo, que le destinataire d'un email. En fait, voilà, c'est tout un ensemble de données dont on n'a pas conscience. Il faut savoir que rien que lorsqu'on like une photo, eh bien, on gère des informations sur nous. Il y a une étude qui a été faite il y a, je crois, 2, 3 ans par Cambridge et Stanford, il me semble, et qui avait montré que, en analysant des likes, eh bien, avec 70 likes, on pouvait en savoir autant que ses amis, avec 150 autant que ses parents, et avec 300 likes autant que que son conjoint. Donc en fait,
Ouais.
on s'aperçoit que toutes ces données, même quand on dit on ne fait rien, je ne fais que liker, eh bien, on donne de nous-mêmes beaucoup d'informations qui sont exploitables.
Et puis bah, le prénom, le nom et sa photo, c'est pas forcément des choses que l'on va donner à tout le monde lorsqu'on croise quelqu'un dans la rue, hein. C'est ça qu'il faut bien voir. La particularité aussi, Eric Debray, d'une application et d'une entreprise comme Facebook, c'est qu'elle est gratuite et que pour se rémunérer, elle va envoyer des données sur nous à des entreprises qui recherchent ce genre de données, hein.
Alors, en théorie, elle n'envoie pas des données, elle ne communique pas les données à l'extérieur. Hein, c'est bien le problème de Cambridge Analytica. En théorie, ces sociétés, hein, on parle de Facebook, mais toutes les sociétés qui maintenant gravitent sur la donnée, en fait, elles permettent de cibler, en fait, elles utilisent les données pour faire un ciblage publicitaire, par exemple. Mais normalement, elles ne communiquent pas les données à l'extérieur. Hein, c'est tout le principe de ça. Alors, il y a autour de ça, quand on dit on ne communique pas les données, normalement les entreprises sont censées respecter un certain nombre de règles. Hein, et le fait que le service est gratuit, eh bien, pour se prémunir, les Facebook, les Google et toutes les entreprises, en fait, nous font signer des fameuses clauses, conditions générales d'utilisation, hein, les fameuses CGU, dans lesquelles on accorde beaucoup de droits à ces entreprises, mais le problème, c'est qu'on ne les lit pas parce que même Mark Zuckerberg l'a reconnu dans l'audition devant le Sénat, c'est qu'elles sont trop volumineuses, elles sont peu compréhensibles, et puis de toute façon, on n'a pas vraiment le choix parce que on veut avoir accès à Facebook ou à Google ou à un autre GAFA, et donc, eh bien, sans regarder en détail ces CGU, hein, ce qu'on appelle CGU, les conditions générales d'utilisation, on coche systématiquement les cases. Et c'est un vrai problème parce qu'on donne notre consentement comme ça, un peu les yeux fermés.
Oui, on dit notamment qu'il faudrait 3 jours et un bon avocat ou juriste pour arriver à lire et comprendre l'ensemble de ces CGU, application par application. Mais ce qui signifie que finalement, Facebook, Éric Debray, a bien influencé, qu'il le veuille ou non, que Mark Zuckerberg le veuille ou non, la campagne américaine ou encore le Brexit.
Alors, de toute façon, alors il l'influence forcément, hein, parce que au-delà de communiquer, on peut demander à Facebook d'envoyer des pubs ou des messages. Hein. Ce genre de pratique, lors de la campagne, je crois que c'est d'Obama, on parlait de Nation Builder. Hein. En fait, c'est des outils qui vont prendre ce qu'il y a disponible, d'ailleurs, hein, les données qui sont disponibles à tout un chacun, et puis ils vont pouvoir faire des corrélations entre des goûts musicaux, etc., essayer de déterminer les tendances d'opinion politique, ou voir simplement détecter ceux qui n'ont pour l'instant pas fait un choix politique. Et au moment des élections, on peut très bien cibler toutes ces zones d'indécis et leur envoyer des messages pour leur suggérer de voter pour quelqu'un. Donc en fait, c'est très vague parce qu'en fait, on ne sait plus très bien où est la légalité, etc. Mais on est tous aujourd'hui dans un jeu d'influence, puisque toutes les suggestions qui sont faites, toutes les recommandations ne sont ni plus ni moins que des influences. Donc tout le problème est le curseur. où se situe le curseur pour savoir si on est dans l'égalité ou dans la légalité, à quel moment on va dépasser le domaine de la vie privée et le consentement de l'utilisateur.
Éric Debré, lorsque je discute avec des auditeurs, certains d'entre eux me disent oui, très bien, hein, Facebook exploite des données que je lui ai données, mais moi personnellement, je n'ai rien à cacher dans le sens où voilà, je ne vais pas préparer des choses sur Internet, je n'ai rien à cacher, je suis voilà, libre, on va dire. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là?
Bah, déjà que quand on dit qu'on n'a rien à cacher, ce qui est vrai, mais on ne sait pas quand, hein, et on ne sait pas comment ça peut être exploité, parce que des informations qui sont anodines peuvent être exploitées à notre insu. On n'a pas envie d'être inondé de messages ou de mails. Donc, il faut quand même être assez vigilant. Et puis, en plus de ça, quand on dit qu'on n'a rien à cacher, et moi je suis le premier à le dire, hein, moi je communique sur les réseaux sociaux de manière assez large. Effectivement, je n'ai rien à cacher, ceci dit, je ne mets pas n'importe quoi non plus, mais comme j'expliquais, le simple fait de dire, même je ne suis pas visible, je fais quasiment rien, ben, rien qu'en faisant les fameux likes dont je parlais, on donne des indications. Ces indications peuvent être assez suffisantes, enfin suffisantes pour donner des indications sur des opinions politiques, des opinions religieuses, etc. Donc, il faut être très vigilant là-dessus.
Les données personnelles sont-elles le carburant de l'intelligence artificielle?
Alors oui, parce que par définition, hein, l'intelligence artificielle, bon, il y a pas mal de domaines, mais ce dont on parle le plus souvent, ce sont le machine learning et le deep learning, donc des machines auto-apprenantes. Et pour apprendre, par définition, elles ont besoin de données. Donc, elles ont besoin de données d'apprentissage, comme on appelle ça. Et donc, naturellement, elles se nourrissent de données, et plus qu'elles donnent, et plus l'intelligence devient, enfin, plus le moteur ou l'IA devient performante et intelligente. Donc, les deux sont liés, hein. Et d'ailleurs, comment s'appelle Facebook, il y a eu un document confidentiel qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui indiquait que Facebook préparait des nouveaux services pour la publicité, de manière non seulement à utiliser les préférences, mais surtout à essayer d'anticiper les souhaits des utilisateurs. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle qui va explorer tout ce que fait l'internaute sur Internet, et de là va essayer d'anticiper des choses qu'on n'a même pas imaginées. Donc, IA, enfin, intelligence artificielle et données, ça va de pair, hein.
Oui, vous parliez, Éric Debray, du RGPD, un règlement général sur la protection des données privées qui entre donc en vigueur le 25 mai prochain, avec comme idée principale, hein, de protéger les données personnelles des citoyens européens. Est-ce que vous y croyez justement à ce RGPD ou, eh bien, au contraire, la machine Facebook, la machine GAFA est lancée et désormais, eh bien, on ne peut plus l'arrêter?
Alors, oui, non, j'y crois. Alors, au début, je me disais, le RGPD, c'est européen, et malheureusement, c'est une bonne chose pour protéger les citoyens, mais ça va être un frein pour rivaliser avec les fameux GAFA. Maintenant, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ben, je me dis finalement, le RGPD est non seulement une bonne chose, mais la contrainte, en tout cas la contrainte, puisqu'il y a forcément des contraintes, hein, on pose des limites, donc des contraintes, ben, elle risque également de concerner non seulement l'Europe, mais d'autres pays qui vont peut-être s'en inspirer. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose. Et qu'est-ce qu'on trouve quand même dans la RGPD, hein? Il y a quand même des notions de consentement, hein, donc demander expressément à un individu s'il est d'accord pour qu'on utilise ses données. Et puis l'autre chose, c'est la finalité, c'est-à-dire que quand on donne son consentement pour utiliser nos données personnelles, c'est dans un but précis. Et donc, l'entreprise qui va utiliser ces données ne peut pas faire autre chose que la finalité qui était décrite au départ. Donc, ça me semble extrêmement important.
Et enfin, Éric Debray, vos conseils pour se protéger sur le web aujourd'hui?
Alors, juste avant de conclure,
Bien sûr.
dans Facebook, il y a quand même ce qu'on ne sait plus aussi, c'est que Facebook collecte des informations sur les personnes qui n'ont pas de compte Facebook, hein. Donc le problème est très vaste et très important. Donc je pense que c'est très salutaire qu'il y ait eu ce scandale qui a éclaté parce que finalement tout le monde maintenant prend conscience de ce que l'on met sur Facebook, enfin sur Facebook ou sur les réseaux sociaux de manière générale, hein, et que les données ne sont pas uniquement les pures données nom, prénom, préférence, ça va beaucoup plus loin que ça. Et puis, eh bien, il y a des règles simples. Donc maintenant, de plus en plus, on a quand même accès à nos données, à nos historiques, hein, donc il faut aller fouiller un peu là-dedans. Il faut être vigilant puisque Tout ce qu'on poste à un moment donné peut être utilisé à des fins qu'on ne maîtrise pas beaucoup plus tard. Donc le fait de rien avoir à cacher, c'est vrai aujourd'hui, mais même si on n'est pas un criminel, il y a des choses qu'on n'a pas à cacher mais qu'on veut garder dans sa sphère privée. Donc pareil, il faut être très vigilant dans ce qu'on poste. Et puis ensuite, penser que son téléphone portable, c'est quand même un espion qu'on a dans sa poche, hein, puisque même quand on n'est pas connecté à un Wi-Fi, par exemple, le téléphone, il émet en permanence des informations qui peuvent être collectées et qui en disent beaucoup sur nous. Donc, je pense qu'il faut avoir des règles simples à la fois de conduite, de savoir ce qu'on dirait à nos voisins et ce qu'on dirait pas à un grand public. C'est vérifier de plus en plus ce qui est dit sur nous ou ce qui est collecté sur nous. Et là, je pense qu'il y a Facebook le montre, Google aussi, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de le faire. Et vérifier de temps en temps ce qui est collecté à notre insu ou via les clauses qu'on a signées un peu malgré nous.
Merci beaucoup Éric Debray, expert en sécurité, qui vous conseillait donc les entreprises sur leur stratégie digitale, société Magélia. À très bientôt sur C'est l'info.
Ben merci beaucoup.
Ici, Londres.
Lundi 16 avril s'est ouvert à Londres le sommet du Commonwealth entre le Royaume-Uni et les anciens territoires de son empire colonial. On va en parler avec Alexander Seal.
Bonjour
Martin. Ce
Martin.
25e sommet se tient donc tout ce week-end, un sommet qui devait avoir lieu au Vanuatu, une réunion reportée finalement à Londres à cause d'un cyclone. Mais néanmoins, donc voilà, la cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont bien présents. Alexander, justement, a-t-on beaucoup parlé du Brexit ?
Concernant le Brexit, en fait, les personnes qui ont voté pour le Brexit ont vraiment poussé le gouvernement à se concentrer sur le Commonwealth pour faire le commerce, par exemple, post-Brexit, parce qu'il veut faire le commerce post-Brexit. Et c'est très logique pour eux, à leur sens. Mais les personnes qui sont pro-européens ont dit qu'on ne peut pas remplacer les pays du Commonwealth pour faire du commerce avec ces pays-là, il faudrait faire du commerce avec les Européens et pour rester dans le marché unique.
Alexander, la reine a donc prononcé son discours et visiblement les choses évoluent du côté du Palais Royal.
Oui, parce que ce jeudi, c'est l'ouverture du sommet du Commonwealth. Donc la reine Elisabeth II a accueilli les 53 chefs d'État et de gouvernement au Palais de Buckingham. Et elle a donc prononcé un discours. Et dans son discours, elle a dit « Je suis fière et honorée de vous servir ». Elle a également souhaité que le prince Charles, donc son fils, lui succède en tant que chef d'État du Commonwealth. Mais il y a un petit problème, parce que, en fait, la succession ne vient pas automatiquement. Donc ce sont les 53 chefs d'État et de gouvernement qui décident qui sera le futur chef d'État du Commonwealth. Donc, ce vendredi, les 53 chefs d'État et de gouvernement vont donc décider qui sera le futur chef d'État du Commonwealth dans le futur, selon le 10 Downing Street. Donc, vraiment, la reine souhaite que le prince Charles soit le successeur. C'est naturel, bien sûr. Mais on ne sait pas si les 53 autres chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth souhaiteraient que le prince Charles soit le successeur de la reine en cas de son décès.
Merci beaucoup Alexander. À suivre de la politique étrangère, on va parler des États-Unis et de l'Iran. À la semaine prochaine Alexander. La République islamique d'Iran reste la bête noire des États-Unis depuis leur rupture de leurs relations diplomatiques en 1980. Après un timide rapprochement opéré sous l'ère Obama à la faveur de l'accord sur le nucléaire iranien, les relations se sont tendues depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donald Trump qui, dès son arrivée au pouvoir, fait de l'Iran l'un des 7 pays musulmans touchés par le Muslim Ban. Plus tard, en juillet 2017, les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions pour punir l'Iran en raison d'activités militaires au Moyen-Orient, tout en maintenant l'accord international sur le programme nucléaire de Téhéran. Dans le même temps, en mai 2017, la réélection de Hassan Rouhani avec 58,13% des voix à la tête de la République islamique d'Iran a eu lieu. Tout cela ajoutée à des manifestations, vagues de rassemblements disparates et de faible importance qui ont eu lieu en décembre-janvier dernier. Nous en avions parlé avec vous, Jonathan Piron, bonjour. Vous êtes conseiller à la prospective chez Etopia et spécialiste de l'Iran. Alors justement, comment traduire cette année et demie de pouvoir de Donald Trump et indirectement donc les relations Donald Trump-Hassan Rouhani, États-Unis-Iran?
Donc on assiste à la fin d'une séquence dans laquelle on avait vu sous la présidence Obama les États-Unis donc ouvrir la main à des négociations sur le nucléaire avec l'Iran et faire preuve en fait de négociations comme il n'y en avait plus eu depuis la révolution islamique. Donc c'était d'ailleurs une volonté très forte affichée par l'ancien président américain d'essayer de trouver une solution à la crise sur le nucléaire, crise qui remontait au début des années 2000 et qui avait vu toute une série de sanctions votées par l'ONU et qui ouvrait d'ailleurs aussi un danger qui était celui de voir l'Iran se sentir de plus en plus menacé et donc s'engager dans la prolifération nucléaire avec tous les risques que l'on sait. Même si on a certains doutes, en tout cas sur cette volonté d'acquérir des armes nucléaires, on pourrait peut-être plutôt parler de l'envie de l'Iran de devenir un état du seuil, c'est-à-dire un état qui est capable donc d'acquérir des armes nucléaires et donc qui d'une certaine manière est ainsi sanctuarisé. C'était aussi une volonté très forte de la part de l'ancien président américain qui l'a vu également alors être moins présent dans certains autres dossiers, notamment dans le dossier syrien, puisque toute sa volonté était d'obtenir un accord donc sur le nucléaire. On est complètement dans une autre séquence depuis l'élection de Trump à la présidence, et c'est un côté beaucoup plus ultra-conservateur dans les relations entre les États-Unis et l'Iran qui est maintenant en place du côté de Washington, avec Trump évidemment qui, dès sa campagne électorale, affirmait que l'accord avec l'Iran, l'accord sur le nucléaire, était un des pires accords jamais conclus. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui est même nécessaire quand on étudie la politique étrangère, c'est de voir quelles sont les personnes dans l'entourage de Donald Trump et quels sont justement ses conseillers qui vont pouvoir essayer soit d'infléchir, soit d'encourager ses positions et ses décisions. Et quand on voit les différentes nominations, les différentes divisions qui ont eu lieu ces dernières semaines, avec notamment au secrétariat d'État l'arrivée de Mike Pompeo et avec John Bolton qui est devenu maintenant le nouveau conseiller à la sécurité nationale, et bien ces deux personnages sont parmi les plus durs à l'égard de l'Iran. Bolton d'ailleurs a appelé dans le passé à ne pas hésiter à s'en prendre militairement, à faire des frappes préventives contre la République islamique. Ce sont également des personnes, dans le cadre de John Bolton, qui sont proches des Moudjahidines du peuple iranien, qui était une ancienne organisation reconnue comme terroriste par les États-Unis, qui est particulièrement détestée en Iran et qui milite ouvertement pour un changement de régime dans le pays. Et donc on voit que petit à petit, en fait, se met maintenant en place aux États-Unis une musique qui est résolument dirigée contre le pouvoir de Rouhani, contre le pouvoir de la République islamique, et qui, à tout le moins, souhaite que l'accord sur le nucléaire soit complètement abandonné et que de nouvelles sanctions soient votées donc contre Téhéran.
Oui, est-ce que cela signifie que les jours les plus sombres s'annoncent désormais? Plus directement, les États-Unis vont-ils se retirer de cet accord sur le nucléaire iranien?
C'est très difficile de dire ce qui va se passer parce que les spécialistes des relations internationales n'ont pas une boule de cristal qui leur permet de dire exactement ce qui va arriver.
Mais
en attendant, voilà. Et puis, mais il y a en tout cas l'accord sur le nucléaire est dans une position qui est très instable. Il semblerait en effet que tous les marqueurs s'allument pour démontrer que les Américains ont la nette envie de s'en retirer. Donc Trump ne s'en est jamais caché et quand il a dû par deux fois revalider l'accord, il a fait de très mauvaises grâces. Poussé justement par ses conseillers qui essayaient de démontrer que l'accord était quand même nécessaire. Donc ici, on se retrouve dans une situation où les différentes murailles, les différents filtres qui lui permettaient justement d'essayer de continuer à valider l'accord ont disparu. Et donc, il est certainement plus que probable que les Américains vont s'en retirer. Tout va dépendre maintenant, en fait, de la réaction des Européens, qui sont l'autre grand parti qui a mis énormément de travail pour essayer d'obtenir cet accord, et aussi et surtout de la réaction des Iraniens. Ils pourraient très bien se contenter du maintien des Européens, même si on sait que par toute une série d'autres mécanismes de sanctions, ce qui était le sens même de l'accord nucléaire, à savoir notamment la levée des sanctions économiques, le retour d'investissements étrangers, pourrait se retrouver mis entre parenthèses, et donc les Iraniens pourraient très bien considérer que ça ne sert plus à rien de continuer, donc même avec les Européens.
Oui, et quel serait l'intérêt pour les États-Unis, pour Donald Trump et pour l'ensemble de son establishment de se retirer d'un tel accord?
Mais il faut voir deux angles. Donc, il y a déjà l'angle de politique intérieure. Ce que Trump essaye de faire, c'est de s'affirmer comme ce que Obama n'a pas été, c'est-à-dire un président avec un leadership fort, un charisme, qui fait ce qu'il dit, comme il a affirmé d'ailleurs à de nombreuses reprises qu'il souhaitait se retirer de la course sur le nucléaire, il s'affirme donc vraiment comme un chef. En tout cas, il veut se montrer comme tel à l'égard de son électorat. Il y a aussi au sein de Washington et de tout ce ceux qu'on retrouve autour de Donald Trump, des lobbies très puissants qui sont assez hostiles à la République islamique. C'est par exemple tous ceux qu'on retrouve autour de l'AIPAC, qui sont les principaux lobbies qui soutiennent Israël. On retrouve également d'autres groupes d'oppression qui sont proches de l'Arabie saoudite. Et on sait que ce sont deux États qui verraient d'un très bon œil justement en changement de régime également du côté de la République islamique. Et puis on se retrouve aussi dans un contexte international qui est celui d'une recomposition du Moyen-Orient avec de nouveaux pouvoirs, en tout cas de nouveaux héritiers, qui arrive toujours au pouvoir, notamment le prince Salman, qui était encore récemment à Washington et qui joue un rôle très fort de pression aussi auprès des États-Unis pour que cet accord soit mis par terre, puisqu'on est aujourd'hui dans ce qu'on a envie d'appeler communément une guerre froide entre l'Iran et l'Arabie saoudite au Moyen-Orient. C'est une quête de leadership, en fait, pour que soit l'un, soit l'autre deviennent l'État qui domine la région. Et ce sont toute une série en fait de théâtres d'opérations interposés qui font aujourd'hui l'objet de la confrontation entre les deux États. Et l'accord sur le nucléaire est également l'un de ces théâtres d'opérations.
Et alors là, bon, pure politique fiction, Jonathan Piron. Demain, donc, les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien. L'Iran peut-il ou a-t-il les moyens de procéder à de nouveaux essais nucléaires ?
Mais l'Iran n'a pas procédé à d'essais nucléaires. Ce qui se passe aussi quand on voit les différentes inspections qui ont été menées aujourd'hui par l'AIEA, donc depuis 2015 et depuis que l'accord a été signé, depuis sa mise en place aussi janvier 2016, c'est que l'Iran a à chaque fois respecté les différentes conventions, les différentes lignes qui ont été dressées dans l'accord. Donc il n'a été en fait en dehors de l'accord qu'à deux petits moments, notamment en août 2016, quand sa production d'eau lourde a très légèrement dépassé le quota qui était imposé par l'accord. D'ailleurs, pour l'anecdote, le quota, le surplus a été racheté par les États-Unis. Maintenant, si en effet l'accord tombe, que les Iraniens décident de le rompre également de leur côté, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on va se retrouver directement avec une relance des centrifugeuses, une relance de la production nucléaire ? C'est ce que les Iraniens affirment, notamment en prétendant qu'ils pourraient très bien essayer de repartir avec des productions de centrifugeuses qui sont beaucoup plus élevées. On pourrait aussi se retrouver avec toute une série d'inspections qui seraient donc fermées, avec des sites qui pourraient être aussi à nouveau cachés de la part des Iraniens. Il faut se rendre compte aussi que c'est une situation qui mettrait en très grande difficulté le président Rouhani, puisque les ultra-conservateurs n'auraient de cesse alors de dire que « mais regardez, vous avez voulu négocier avec l'Occident, vous n'y êtes pas parvenu, ce sont encore une fois des ennemis, nous vous l'avons bien dit, nous devons revenir à une politique plus forte qui est celle d'une politique de la résistance contre l'Occident ». C'est un discours qui est très fort, notamment du côté des ultra-conservateurs en Iran et qui insiste un peu sur cette vision du complot, sur cette haine de l'Occident qui sert leur discours. Donc il y a quand même plusieurs pas et plusieurs étapes avant d'acquérir une arme nucléaire. Il faut encore aussi voir comment d'éventuelles frappes pourraient être menées. On est beaucoup dans la politique fiction. Donc l'Iran ne va pas du jour au lendemain pouvoir produire une arme nucléaire. Ça dépend aussi énormément de techniques à acquérir et aussi d'une volonté claire de dépasser ce qu'on appelle le seul nucléaire pour devenir véritablement un État qui dispose de l'arme nucléaire. Donc ça, il faudra certainement compter encore avec plusieurs mois, voire des années, si l'Iran décide de s'y lancer pour y parvenir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on se retrouvera dans une nouvelle zone d'instabilité régionale. C'est un foyer, un conflit supplémentaire qui arriverait donc dans cette région qui est déjà particulièrement déstabilisée. Et c'est aussi un risque de prolifération nucléaire qui pourrait ouvrir la voie à un démantèlement du TNP, qui est le traité de non-prolifération nucléaire qui régit pour le moment justement la prolifération mondiale, avec des États comme l'Arabie saoudite qui pourraient très bien aussi décider de se lancer dans la prolifération nucléaire. C'était une déclaration récente d'ailleurs qui avait été faite par les autorités saoudiennes. Pourquoi pas les Turquies ? Pourquoi pas d'autres États ? Et donc avec une relance de la prolifération qui serait particulièrement dangereuse pour l'équilibre régional et mondial.
En tout cas, pour Hassan Rouhani, si les États-Unis violent cet accord, ils le regretteront. C'est ce qu'il a déclaré lundi 9 avril à l'occasion de la journée nationale de la technologie nucléaire dans le pays.
En effet, donc ça c'est aussi un discours de politique intérieure. Hassan Rouhani semble qu'il est en difficulté. Il est aussi remis en difficulté pour cette politique économique qui ne parvienne pas à rejoindre les différentes promesses qu'il avait proposées durant sa campagne électorale. Et donc il est obligé, lui aussi, par rapport à son électorat, mais aussi par rapport à la frange ultra-conservatrice, de s'affirmer comme un leader fort et donc de démontrer qu'il ne va pas se laisser faire par les États-Unis. Donc on ressort encore une fois les vieux symboles et les vieilles marottes, aussi bien du côté de Washington que du côté de Téhéran, qui permet de dire, mais regardez, je suis quand même un président qui permet de défendre les intérêts nationaux, aussi bien du côté américain que du côté iranien. Et donc on a une escalade aussi de déclarations symboliques qui vont se réaliser dans les prochaines semaines pour affirmer que chacun est vraiment droit dans ses bottes et est le plus à même de défendre les intérêts du pays.
Et alors justement, voilà, on parle beaucoup de la stratégie américaine, mais quid, Jonathan Piron, de cette fameuse stratégie iranienne? Y a-t-il une volonté expansionniste, anti-américanisme primaire ou aventurisme anti-sioniste dans les stratégies iraniennes?
Donc, on a souvent l'habitude de considérer, notamment en matière de politique étrangère, qu'il y a un bloc hégémonique, en fait, à la direction d'un pays et que la plupart des acteurs au pouvoir avancent de manière concertée. Or, ce qui est important, c'est de voir, en fait, quels sont les groupes qui sont en place et comment ces groupes vont s'influencer réciproquement pour essayer d'influencer les décisions à prendre. Dans le cadre de l'Iran, il y a notamment plusieurs sources qui ont été écrites, notamment de la main du président actuel Rouhani, qui nous montrent en fait que les différentes décisions politiques étrangères se font souvent par consensus et avec un consensus par le bas, et qu'il y a toute une série d'arbitrages qui se font en coulisses, avec également des jeux d'influence qui parfois amènent la République islamique à prendre des directions, des décisions qui sont dans des directions opposées que celles auxquelles on est parfois habitué de l'entendre. Donc la politique étrangère de l'Iran est avant tout celle qu'on pourrait reconnaître autour d'une volonté de défendre ses frontières et d'essayer justement de déplacer cette frontière de plus en plus loin. D'avoir donc une politique de voisinage dans laquelle il va essayer de jouer un rôle parfois déstabilisateur, notamment on le voit en Syrie, on le voit en Irak, mais pour essayer justement de repousser la menace le plus loin possible de ses frontières. Ce qui reste très important dans la manière dont la politique étrangère de l'Iran s'écrit, notamment à l'intérieur du pays, c'est ce qu'on appelle la défense sacrée, et qui se retrouve notamment à partir des concepts liés à la guerre avec l'Irak dans les années 80, qui est toujours ressenti en fait comme étant la principale menace, l'exemple même des menaces auxquelles l'Iran est confronté aujourd'hui. Donc l'Iran cherche non seulement à récupérer son pôle de puissance régionale telle qu'il existe avant 1979. Il y a quand même des éléments déterministes qu'on retrouve donc depuis plusieurs décennies dans le cadre des décisions prises par les politiques étrangères iraniennes. Mais il y a aussi cette volonté de repousser au plus loin les menaces, parce que l'Iran se considère, en tout cas les défenseurs du régime de la République islamique, se considèrent comme menacés. Et donc ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est d'acquérir notamment les moyens pour assurer leur défense, que ce soit des missiles balistiques, mais aussi, encore une fois, d'essayer de repousser au plus loin la menace pour éviter donc de se faire envahir, que ce soit par les États-Unis ou par l'Arabie saoudite.
Alors, Jonathan Piron, Hassan Rouhani a donc été réélu en mai dernier pour un nouveau mandat avec une majorité, une bonne majorité même. Quel est son premier bilan? Quel bilan tirer de cette première année du second mandat d'Hassan Rouhani?
Elle est assez difficile puisque on a vu notamment avec les différentes manifestations de décembre et janvier dernier que les questions économiques et sociales occupent encore une fois le devant de la scène. Et d'ailleurs, les derniers jours ont encore été difficiles pour Hassan Rouhani d'un point de vue économique. C'est que le rial est en train de perdre de plus en plus de poids face au dollar et que l'économie ne se relance pas, même si l'inflation reste stable. Donc la question du chômage reste très importante. Et la question aussi de la place des jeunes, de leur avenir, reste aussi quelque chose qui traverse la société iranienne aujourd'hui, qui est plus fragmentée, plus fracturée qu'on ne le croit d'un point de vue extérieur. Donc ce bilan est très fortement en demi-teinte. Il y a énormément d'espoirs qui sont déçus, il y a encore des promesses qui sont en attente, et l'environnement régional n'est pas non plus très rassurant pour l'Iran. On se rappelle que l'année dernière, la ville de Téhéran a été frappée par des attentats commis par l'État islamique, ce qui a aussi pas mal bousculé les habitants du pays. Donc il y a une espèce en fait d'incertitude sur l'avenir qui est vécue aujourd'hui par la société iranienne, avenir par rapport à ce qui va arriver de l'extérieur, donc les menaces, mais aussi par rapport à qui va arriver de l'intérieur. Donc la République islamique, qui va fêter l'année prochaine son 40e anniversaire, se retrouve en fait dans une situation un peu instable. Elle s'interroge beaucoup justement sur la manière dont la population va évoluer, donc les réponses aussi aux attentes économiques, sociales, politiques et culturelles vont être résolues. Et donc on se retrouve en fait dans une période d'un Iran incertain, dont énormément de scénarios peuvent se dessiner donc, dans les mois à venir, dans les années à venir par rapport à son avenir, mais dont on n'a pas vraiment encore de certitude quant à la manière dont la société iranienne va évoluer.
Oui, le grand ennemi de la région, c'est bien sûr l'Arabie Saoudite, qui a donc levé son plan 2030, soutenu par Mohamed Ben Salman, le prince héritier, qui était d'ailleurs cette semaine en visite à Paris. Où voyez-vous l'Iran à horizon 2030?
Mais l'Iran, à moyen et à long terme, va être confronté à des défis qui vont être des défis physiques et des défis naturels, liés notamment à la question du réchauffement climatique et aussi à toute une série d'épuisements des ressources naturelles, par exemple les ressources en eau, qui sont en train de causer de plus en plus de problèmes aussi bien à l'État qu'au pays. Par exemple, il y a dans certaines régions près de l'Afghanistan, mais également près de la frontière avec le Pakistan, je pense au Sistan Bélouchistan, des villages qui pour le moment sont abandonnés parce que les ressources en eau se sont taries et donc les agriculteurs n'ont d'autre choix en fait que de migrer vers des villes moyennes pour essayer de trouver donc des moyens de subsistance, que ce soit un travail ou que ce soit des services publics. Et donc à l'horizon 2030, différents experts iraniens, d'ailleurs différentes universités, tablent que les phénomènes migratoires vont augmenter si rien n'est fait. Et que d'ailleurs d'ici la fin du siècle, ce serait à peu près 70 voire 75% de la population iranienne qui serait obligée d'entamer également cette migration vers des villes moyennes. Donc la menace principale en fait à cet horizon, c'est comment est-ce que ces différentes tensions sur les ressources vont être résolues. C'est aussi, en plus de la question de l'eau, un phénomène de désertification. C'est aussi la question des tempêtes de poussière qui sont particulièrement difficiles dans certaines régions et qui entraînent parfois à Téhéran la fermeture des services publics et des écoles tellement ces tempêtes sont agressives et qui vont en fait nécessiter des réponses régionales. Dans le cas des tempêtes de poussière, ce sont des phénomènes qui viennent d'Arabie Saoudite mais également de Syrie. Dans le cas des épuisements en eau, ce sont aussi des situations liées à des nappes fertiles qui s'épuisent, des suites des conflits, notamment avec l'Irak, mais également avec l'Afghanistan. Et donc, en fait, les défis, ce sont des défis qui se posent pour l'Iran, mais aussi qui se posent sur le Moyen-Orient et qui vont nécessiter une nouvelle forme de coopération parce que les États ne vont pas pouvoir s'en sortir eux-mêmes. Et donc, on se retrouve justement dans cette situation où si le Moyen-Orient, si les différents États de la région veulent se dégager un avenir, ils vont devoir le faire en commun. Parce que la question de ces impacts climatiques dépasse les frontières et donc on ne va pas se retrouver dans une situation où une seule capitale pourra s'en sortir et pas une autre.
Et évidemment, et avec les États-Unis, c'était un petit peu le thème originel de notre interview. Les États-Unis et l'Iran, en tout cas pour les trois prochaines années, resteront dans des relations plus que compliquées.
Ça, c'est certain. Il n'y a pas vraiment d'ouverture qui pourrait se manifester du côté de Washington, même si on fait un peu de politique fiction, dans l'éventualité d'un impeachment qui aboutirait contre Donald Trump, l'entourage qui se retrouve au sein de la présidence est quand même majoritairement hostile à Téhéran. Et donc, les trois prochaines années, en effet, ne vont pas être les années les plus optimistes pour un réchauffement des relations entre l'Iran et les États-Unis.
Oui, et le récent départ de Rex Tillerson, donc, qui était l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères en France, est-ce que le départ de Rex Tillerson va empirer la situation? Bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais...
Mais son successeur, Mike Pompeo, voilà, c'est une personne qui est résolument hostile à la République islamique. Et donc, en effet, les différentes personnes qui ont remplacé donc, les personnes démissionnaires ces dernières semaines et ces derniers mois sont à chaque fois des faucons qui ont des attitudes particulièrement dures dans la manière dont les États-Unis doivent diriger leur politique étrangère. Cela vaut pour l'Iran, mais cela vaut aussi pour la Corée du Nord, par exemple. Et donc, l'optimisme n'est pas de rigueur pour le moment, même si, encore une fois, la manière dont une politique étrangère se décide se définit à partir de toute série de pressions et de jeux d'acteurs qui se font parfois en coulisses et qui parviennent parfois à se neutraliser les uns les autres et aboutir donc à une situation bon an mal an de statu quo. Mais néanmoins, le pessimisme concernant l'accord nucléaire sur l'Iran doit être de rigueur.
Merci beaucoup, Jonathan Piron, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Historien, politologue, spécialiste donc du Moyen-Orient et de l'Iran. Et on peut vous lire sur le site internet d'Etopia, etopia.be. C'est là-dessus que nous refermons ce 34e numéro de C'est l'info. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et merci à vous d'avoir écouté ce 34e numéro. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.